Je ne sais pas qui est Jésus pour vous. Peut-être la question peut vous paraître n'avoir aucun sens, parce que cela fait peut-être des années que vous marchez en tant que disciple de Jésus-Christ. Cependant, il peut exister dans notre vie un décalage entre ce que nous connaissons de Jésus-Christ et ce que nous vivons réellement de la connaissance que nous avons de lui. Je peux par exemple dire et affirmer que Jésus a pardonné mes péchés et pourtant vivre dans la culpabilité de mes fautes. Je peux par exemple affirmer que je suis sauvé par grâce, c'est-à-dire que je ne peux rien à mon salut, que je ne peux rien ajouter à l'œuvre de Jésus-Christ, et pourtant, dans ma vie quotidienne, lorsqu'il m'arrive de pécher, croire que je peux me racheter par quelques œuvres, tant de prières supplémentaires, lecture de l'Évangile plus accrue, croire que je peux me racheter. Il peut donc exister un décalage entre ce que je crois, ce que je connais de Jésus-Christ et ce que je vis par ailleurs. Je vous invite à une lecture dans l'Évangile de Marc au chapitre 8. Marc répond à cette question. Qui est Jésus? Et si vous lisez le premier chapitre de Marc, les premiers évangiles, vous vous rendrez compte que Marc inaugure son évangile en disant « Voilà deux prophéties, Malachie et Ésaïe, qui se sont accomplies, qui sont en train de s'accomplir, et maintenant arrive le temps où Jésus-Christ, le royaume de Dieu, va être inauguré, où la bonne nouvelle va être annoncée, et l'appel que Jésus fait, en reprenant les mots de Jean-Baptiste, c'est « Croyez en l'Évangile ». Donc Marc démarre son évangile en montrant combien ce récit s'inscrit dans quelque chose qui a été annoncé. Et qu'il va jusqu'au chapitre 8 faire découvrir à ses lecteurs l'identité de ce Jésus. Qui est-il et quel royaume décrit-il ou met-il en œuvre, inaugure-t-il? Le texte de l'évangile de Marc que j'aimerais lire ce matin avec vous se trouve au chapitre 8. Vous le connaissez à coup sûr. C'est la deuxième multiplication des pains. Et je vous invite à donc lire le chapitre 8, les versets 1 à 10. Je lis dans la version du semeur. En ce jour-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et qu'ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Mais où pourrait-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ?» « Combien avez-vous du pain ?» leur demanda-t-il. « 7 » répondirent-ils. Alors, il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Et il y avait là environ 4000 hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Aussitôt après, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Un texte qui est simple. Un récit de l'Évangile. Qui est Jésus? Nouvel épisode dans l'Évangile de Marc. Je ne sais pas si vous éprouvez la même sensation que moi après avoir lu ce texte. Voilà plusieurs temps que je lis ce texte, que je le relis, et j'ai l'impression de passer à côté d'important dans le texte. Et j'ai mis un certain nombre de temps et de lecture de ce récit pour comprendre finalement ce que je ne voyais pas alors que mon œil voyait presque de manière invisible. Je m'explique. Et pour m'expliquer, j'utilise une petite illustration. J'ai un fils, le dernier des quatre, qui s'appelle Léo, qui lorsqu'il était à l'école primaire, en rentrant le soir à la maison, je l'interrogeais, je lui disais « Léo, qu'as-tu fait aujourd'hui ? Qu'as-tu fait à l'école aujourd'hui ?» Et la réponse de Léo, c'était « Papa, j'ai marqué 4 buts au foot à la récré. » Vous comprenez le décalage qu'il y avait entre ma question et sa réponse. Ma question était de se dire « Mais qu'as-tu appris à l'école, mon fils, aujourd'hui ?» Et lui me répond, finalement il me répond par quoi ? Par ce qui a été le plus important dans sa journée, marquer 4 buts au foot. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe dans ce récit. Lorsque vous lisez ce récit des miracles, quelles sont les questions que vous avez à l'issue de cette lecture ? Mais comment le miracle s'est déroulé ? Vous n'avez pas ces questions ? Et on réalise que Marc ne dit rien. Pourquoi ? Parce que comme Léo, mon fils, il veut montrer que l'importante était ailleurs dans le texte. Et il y a au moins 3 choses que j'aimerais détailler qui sont ailleurs. Ce texte ne dit rien sur la manière dont le miracle s'est opéré. Sept pains, une prière, et tout le monde a mangé. Comment les choses se sont faites ? Pas de réponse. Quel goût avait ce pain ? Pain sans levain ? Pain avec levain ? Cuit ? Pas trop ? Fariné ? Et les poissons ? Étaient-ils grillés, séchés, issus du lac de Galilée ? Miracle qui se produit dans cette région. Marc ne dit rien de toutes ces questions qui finalement nous taraudent parce qu'il veut attirer notre attention sur autre chose. Et il y a au moins 3 éléments dans ce texte, me semble-t-il, dans ce texte, sur lequel Marc souhaite que l'on s'arrête. Le premier élément, c'est la motivation de Jésus-Christ à opérer un miracle. Qu'est-ce qui motive Jésus à opérer un miracle ? Regardez, cela est dit au verset 2. Quand Jésus voit la foule, que dit-il ? Que dit-il ? J'ai pitié de cette foule. Alors il faut comprendre que le mot pitié ici n'est pas « il me fait pitié » dans le sens « oh mais quel paumé, il n'y a plus rien à espérer de lui, voilà un cas désespéré ». C'est pas de cette pitié dont il s'agit dans le texte. Le mot en grec, et ce mot qui est un hébraïsme, c'est-à-dire qui rend compte, c'est littéralement saisi dans les entrailles, dans les entrailles. Il est pris émotionnellement de l'intérieur en voyant la foule et en voyant son besoin. Un besoin tout à fait primaire. Un besoin de nourriture. Ce qui motive Jésus-Christ à opérer ce miracle, c'est sa compassion, sa pitié pour la foule qui est devant lui. Je crois que c'est le premier enseignement que Marc veut nous révéler au travers de cet épisode. D'ailleurs, dans le premier épisode de la multiplication des pains, au chapitre 6 de l'évangile de Marc, Jésus dit exactement la même chose. De mémoire, lorsque Jésus sort de la barque, il fut saisi de pitié, et c'est exactement le même terme en grec, en voyant cette foule qui n'avait pas de berger. Il y a différents endroits dans l'évangile de Marc, ce qui motive Jésus-Christ à intervenir, à opérer les miracles, à opérer les exorcismes, c'est sa compassion. La compassion qui est destinée à qui ? À ses disciples. Le texte nous le dit clairement, à la foule qui le suivait. Et qui était cette foule qui suivait Jésus-Christ ? Là encore, regardons dans les évangiles, qui s'approchait de Jésus ? Qui venait à sa rencontre ? Qui venait écouter ses enseignements ? Il y avait les responsables religieux, les spécialistes de la loi, les pharisiens et les sadducéens, que nous allons retrouver un peu plus tard dans le texte. Il y avait aussi des hommes et des femmes et des enfants. Significatif dans une culture où les lois sociales régulaient les relations entre les hommes et les femmes. Une femme avait très peu de vie publique au temps de Jésus. Mais Jésus se laisse approcher par cette foule dans laquelle il y a aussi des femmes. Des enfants, quelques récits de l'Évangile nous le disent. Nous savons que dans cette foule, il y a des hommes et des femmes qui vivent sous l'influence de mauvais esprits ou qui sont même possédés par des démons. Nous savons que dans cette foule, il y a aussi des gens qui sont malades, handicapés. Et puis les évangiles nous disent aussi que dans cette foule, il y a des gens dont la moralité laisse à désirer. Quand l'Évangile cite les collecteurs d'impôts, c'est rarement pour souligner leur vertu. Au contraire, c'était pour mentionner leur corruption. Des gens dont la moralité l'immoralité était connue de tous. Il y avait aussi ces gens de mauvaise vie, ces femmes adultères, et certainement des hommes aussi. Bien sûr, qui était dans cette foule dont Jésus a compassion. Et moi, j'aimerais vous poser la question, quel est le regard que vous portez sur la foule qui vous entoure? Est-ce que lorsque vous regardez le monde qui vous entoure, vos collègues de travail, vos familles proches, vos voisins, est-ce que vous êtes saisi dans vos entrailles comme Jésus l'a été lorsqu'il a regardé? Si dans votre vie vous considérez que certains ont droit à la prédication de l'Évangile et pas d'autres, si vous avez dans votre liste une petite liste entre les gens qu'il est bon de fréquenter et ceux qui sont infréquentables, qui n'ont pas droit à l'Évangile, vous vous trompez. Nous retrouvons dans la foule qui suivait Jésus toutes les catégories sociales, morales qui nous entourent. Il y avait des homosexuels dans cette foule. Quel est le regard que nous avons sur les homosexuels dans notre société? Est-ce que nous sommes pris dans nos entrailles comme Jésus l'a été lorsqu'il posait ce regard sur la foule? Est-ce que nous avons les sentiments qui étaient en Jésus? Est-ce que nous les avons en nous? La manière dont nous regardons notre prochain témoigne de notre maturité spirituelle et de ce que nous avons compris de l'Évangile. Deuxième élément dans ce récit sur lequel Marc, semble-t-il, veut attirer notre attention, c'est un peu dans le prolongement du premier enseignement, c'est ce qui se passe à la fin du miracle. Et là encore, si vous comparez ce récit avec le premier récit de la multiplication du pain, vous allez voir qu'il y a des points communs. Dans les deux cas, on fait un inventaire sur le rab. Combien reste-t-il? Ici, il nous est dit que tout le monde mangea à satiété et qu'on ramassa 7 corbeilles. Et Marc mentionne qu'il y avait 4000 hommes. Alors là encore, si nous ajoutons les femmes et les enfants, nous avons certainement une foule qui peut au minimum serait composée du double de personnes. Donc vous imaginez l'organisation logistique, le banquet que Jésus organise, nourrir 4000 personnes en un seul repas, c'est le défi des grandes sociétés de restauration françaises. Le texte nous dit que tout le monde mangeait à satiété. En d'autres termes, tout le monde était repu. Peut-être que Jésus n'a pas directement enseigné après le repas, parce que les gens avaient le repas. Non, je vais un peu plus loin que le texte de l'Évangile, mais à satiété, la panse était pleine. Plus personne n'avait faim. Et en plus, il y avait du rab. Qui est Jésus? Non seulement Jésus est pris de pitié à l'égard de la foule, mais lorsque Jésus intervient, ça déborde. Il y a du rab. Cela nous renvoie, là encore, à notre relation avec notre Seigneur Jésus. Lorsque vous priez, et que vous priez selon l'Écriture, faites connaître tous vos besoins au Seigneur, tel que nous le rappelle Philippiens chapitre 4. Nous sommes appelés, différents textes nous disent, à faire connaître nos besoins, c'est-à-dire que parce que Dieu est ému par rapport à nos besoins, parce qu'il a ces sentiments, lui, qu'il avait à l'égard de la foule, il les a encore plus particulièrement à l'égard de ses enfants. Et lorsque nous avons un besoin et que nous prions, que nous les remettons au Seigneur, qu'est-ce que nous attendons du Seigneur? Qu'il réponde un tout petit peu. Qu'il réponde juste ce qu'il faut. Ou est-ce que vous avez déjà fait l'expérience dans votre vie que lorsque Dieu répond à vos prières, souvent ça déborde et il y a du rab? Ce que disent certains textes ailleurs dans l'Écriture, au-delà de nos espérances, au-delà de nos espérances. Et ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus, ou Dieu, est un Père céleste qui se plaît à répondre avec générosité à nos besoins. Non seulement il se préoccupe, et vous avez vu dans le texte, des besoins élémentaires, la nourriture, besoin primaire pour l'existence. Non seulement Dieu se préoccupe de nos soucis, mais il nous appelle à lui faire confiance. Et quand il répond, on a la panse pleine, on est rassasié. Est-ce que c'est ce Jésus-là que vous fréquentez? Est-ce que c'est de ce Jésus-là que vous êtes disciple? Ou est-ce que vous luttez constamment avec des pensées qui consistent à dire « Ouais, mais le Seigneur, je vais pas l'embêter avec ça. » Ou alors « Seigneur, juste un petit peu, mais tu vois, je veux pas t'embêter, mais s'il te plaît, réponds un tout petit peu à ma prière. » Si telle est votre prière, elle n'est pas conforme à l'Écriture et elle ne correspond pas à qui est Dieu. Parce que Dieu a compassion de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de nos besoins. Et Dieu se plaît à répondre, Dieu se plaît à agir, motivé par la compassion, avec générosité. Troisième et dernier point, après un petit mot de conclusion, c'est l'attitude des disciples. Les disciples sont aux côtés de Jésus, ils le connaissent, ils ont les meilleures places quand Jésus fait les miracles, c'est-à-dire qu'ils sont toujours au premier rang, donc eux auraient pu répondre sur comment ça s'est passé le miracle. Derrière Marc, il y a l'apôtre Pierre. Donc Pierre a vu les choses, mais voilà, il ne répond pas à nos questions. Il y a donc les disciples. Et je rappelle que nous sommes au deuxième miracle de la multiplication des pains. Et j'aime la manière dont Jésus introduit la chose. « J'ai pitié de cette foule, les gens nous suivent depuis plusieurs jours, on ne peut pas les renvoyer chez eux, leurs forces vont leur manquer. » Que faire? Et on voit que les disciples sont pragmatiques. Ils regardent autour d'eux, leur constat, aucune grande surface, aucune boulangerie. On est dans un lieu désertique, autrement dit, on est mal barré. Les disciples sont incapables d'imaginer que Jésus puisse faire un miracle. En fait, quelle était la réponse attendue des disciples dans cette deuxième multiplication des pains, à votre avis? Ah ben, on attend des disciples qui disent à Jésus, « Jésus, refais-nous le coup de Marc 6 !»« En Marc 6, tu as répondu, tu vas le refaire !» Je rappelle que ce sont des disciples choisis par Jésus, enseignés par le Maître. Et pourtant, ils ne réalisent pas encore qui est Jésus-Christ. Les disciples ne voient pas sur leur écran radar la possibilité d'un nouveau miracle. Et ils sont dépassés par les circonstances. Après la multiplication des pains, voilà que des pharisiens arrivent et ils demandent à Jésus un signe pour prouver qu'il est Dieu. Qu'est-ce que Jésus vient de faire un peu plus tôt? Il vient de faire la multiplication des pains. Cela démontre combien les pharisiens sont incrédules. Et soyons réalistes, nous sommes de la même graine. Un miracle ne nous suffit pas pour nous convaincre de l'existence de Dieu et de la divinité de Jésus-Christ. Tant notre cœur est dur. Et Jésus leur dit, « Pourquoi les gens de notre temps réclament-ils un signe miraculeux? Vraiment, je vous l'assure, il ne leur sera accordé aucun. » L'histoire continue. fin de la journée, ils montent dans leur barque. Et en montant dans la barque, Jésus dit à ses disciples, les gars, je paraphrase, faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et de celui d'Hérode. Et là, dans la tête des disciples, ça commence à phosphorer. Alors, levain égale pain. Et en fait, les disciples ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire. Les disciples pensent que Jésus leur fait le reproche de ne pas avoir pris du rab avec eux pour la suite de l'expédition. En d'autres termes, il y a eu 7 corbeilles de rab, ils montent dans leur barque, et les disciples se rendent compte qu'ils n'ont pris aucune nourriture avec eux. Les disciples, il nous est dit au verset 16, il nous dit cela parce que nous n'avons pas de pain. Alors, Jésus entame la discussion avec eux, je suis le récit, et il dit, ne comprenez-vous donc pas? Mais qu'est-ce que Jésus cherche à faire comprendre aux disciples? Et là, Jésus revient au premier épisode de la multiplication. Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Marc 6, réponse des disciples, 12 corbeilles. Et quand j'ai partagé les 7 pains, c'est-à-dire aujourd'hui, combien de corbeilles avez-vous emporté? 7. Et Jésus dit, vous ne comprenez toujours pas. Vous comprenez, vous, ce qui se passe là? Je suis pas sûr, hein. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus reproche aux pharisiens leur manque de foi en Jésus-Christ. Et il dit à ses disciples, faites attention de ne pas devenir comme un pharisien, c'est-à-dire à manquer de confiance en moi, même pour les détails de la vie, même pour la nourriture. Jésus est en train de se dire à ses disciples, lorsqu'il dit « vous ne comprenez toujours pas », il est en train de leur dire « mais les gars, vous comprenez pas que je suis avec vous dans la barque, et donc que la nourriture n'est pas un problème, bien que vous ayez oublié le rab ?» Ne devenez pas comme les pharisiens, incrédules, endurcis, mais réalisez que je suis avec vous dans la barque parce que, et que je suis Jésus et le Fils de Dieu. Qui est Jésus pour vous? Disciple depuis de longues années? Mais est-ce que vous placez votre confiance dans votre maître jusque dans les détails de votre existence, conscient et convaincu que Jésus agit à votre égard par compassion, qui lorsqu'il répond, il y a du rab, et la seule chose que Jésus attend de vous, c'est cette confiance sans limite en sa personne. Regardez les récits qui suivent. Multiplication des pains, venue des pharisiens, les disciples montent dans la barque. L'histoire continue, et au verset 22, c'est la guérison d'un aveugle. Et c'est une guérison en deux temps. Jésus intervient une première fois, l'aveugle aperçoit des choses, mais Jésus pose à nouveau les mains, et cette fois-ci, l'aveugle voit de manière claire. Pourquoi ce récit est à cet endroit dans l'Évangile? Parce que Jésus veut nous montrer que lui-même est obligé d'intervenir dans notre vie pour que nous le voyons, nous le voyons tel qu'il est vraiment. Et suite à la guérison de l'aveugle, il y a cette question que Jésus va poser à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre a cette confession, tu es le Messie. Et c'est à cela que Jésus veut nous amener, reconnaître Jésus-Christ pour qui il est vraiment. Et c'est pas juste une compréhension théologique de la divinité de Jésus-Christ. C'est de croire qui il est et d'être conséquent dans notre vie au quotidien. Qui est Jésus pour vous? Je termine par un mot de conclusion. Et j'essaie de me remettre à la place de ces juifs qui sont là. Qui connaissent toutes les histoires de l'Ancien Testament, l'histoire de leurs aïeux, qui un temps ont été dans le désert pendant 40 ans, ces juifs qui sont là dans la foule et qui connaissent cette histoire de Moïse, qui connaissent cette histoire où le peuple d'Israël a été nourri pendant 40 ans par la manne, ce peuple, ces juifs qui sont là dans la foule et qui ont peut-être désespéré de voir un jour le Messie arriver, Ces Juifs qui sont là, qui peut-être ne croient plus en Dieu parce qu'il ne se passe plus rien depuis des siècles. Et vous imaginez un Juif dans cette foule qui connaît ces histoires de Moïse, qu'est-il en train de revivre ? Il est en train de revivre exactement ce que ses aïeux ont vécu. Et ça, ça a dû être une expérience extraordinaire. Mais ce que je suis en train de vivre, j'ai du pain, quand est-ce que cela est arrivé ? Mais c'était avec Moïse dans le désert. Cet homme qui est là, c'est un nouveau Moïse. Combien de textes dans l'Ancien Testament annoncent la venue de Jésus-Christ en utilisant Moïse, un nouveau Moïse, quelqu'un comme Moïse à venir. Et il sera encore plus grand. Un nouveau David, un nouveau berger. Et s'accomplissent sous leurs yeux cette révélation des textes de l'Ancien Testament. Oui, Dieu s'est fait homme, il s'est fait révéler. Il s'est révélé à l'humanité. Avec en plus une carte du menu qui a changé. Dans le désert de la manne, ici, du pain et du poisson. Cette expérience a dû être une révélation extraordinaire. Une révélation que je vous souhaite, conscient que c'est Dieu qui a besoin d'éclairer notre intelligence pour que nous puissions comprendre qui il est et vivre en conséquence de ce que nous croyons, à l'image de ce que Marc nous enseigne dans ce texte. Amen.